Bonjour, mon nom est Kitsy Antoine. J'anime Nouveau départ, un podcast sur l'immigration au Québec. Je suis animatrice, artiste visuelle et entrepreneur sociale. Et je suis surtout pas née au Québec. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui quittent tout. Faisons l'effort de mieux comprendre cette réalité. Un nouveau départ. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Nouveau départ, ce podcast où j'avais envie de compiler des conversations autour de l'expérience d'immigration ici au Québec. Donc oui, mon nom est Kitsy Antoine et comme je le dis dans mon intro, je suis femme d'affaires, artiste visuelle ainsi qu'animatrice. Et à travers mon rôle d'artiste visuelle, souvent je suis menée à participer à des installations, je me fais inviter aussi par différentes déploiements artistiques à travers le monde. Et j'étais invitée à un moment donné en Guadeloupe pour le festival Camolari. Et j'ai devant moi l'instigatrice, le cerveau, mais le beau cerveau derrière ce festival, et c'est Amélie Tintin. Bonjour Amélie, comment vas-tu?
Ça va bien.
Amélie rit comme, c'est quoi cette introduction?
non, c'est, ça ramène.
Ça ramène, hein?
Ouais, exact.
Et ça nous ramène aussi au fait qu'on se connaît depuis plusieurs années.
C'est vrai.
Amel, parce que c'est comme ça que je t'appelle, Amel. Et Amel, vraiment, quand j'ai réfléchi à ce podcast, tu étais une image très, très forte dans l'écriture de mon idée. Parce que, selon moi, tu incarnes vraiment un nouveau départ. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est gens qui quittent tout, ou presque.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as quitté, Amel?
En fait, je ne sais pas si j'ai quitté quelque chose. Je sais que j'ai ramené quelque chose avec moi ici. Je ne le vois pas comme si j'ai quitté chez moi, parce que chez moi, c'est en moi. Et qu'à partir du moment où je suis, j'existe avec ce que je suis et avec ma terre et avec ma culture, tu vois. Donc, je ne considère pas avoir quitté chez moi parce qu'il m'habite en entier, il m'habite dans tout ce que je fais. Mais j'ai ramené, en fait, chez moi ici. C'est ma perspective, c'est ça, c'est que moi, je suis la Guadeloupe.
Voilà.
Je ramène la Guadeloupe, là.
Alors, grâce à toi, il y a vraiment de la Guadeloupe ici, à Montréal.
Déjà, pas que grâce à moi. Là, je veux elle, parce qu'il y en avait avant moi, il y en aura encore après moi. Mais en fait, c'est ça, c'est que quand je suis partie quand j'ai arrêté de vivre en Guadeloupe, je ne considère pas avoir quitté la Guadeloupe.
Mm-hmm.
Parce que, et vraiment, c'est que c'est, la Guadeloupe est avec moi dans tout ce que je fais, toute ma vie. Tout ce que je suis, tout ce que ça a construit en moi, toute la personne que je suis, l'est grâce à d'où je viens. Et ce qui fait que dans toutes les conversations que je porte, dans tous les combats que je porte, dans tout ce que je mets en place, dans tout ce que je développe, ben, y a chez moi.
T'es arrivée ici quand?
Fin 2017, justement, après le dernier Camolari. Après le dernier Camolari, je suis concrètement, j'ai décidé de venir m'installer ici. Je faisais pas mal l'aller-retour depuis quelques années parce que je développais quand même déjà beaucoup de projets avec le Québec, avec Montréal. Fin 2017, j'ai pris la décision concrètement de venir m'installer ici.
Camolari, pour les gens qui se demandent c'est quoi, c'est vraiment le nom du festival.
Oui.
Un salon de culture urbaine.
Exact.
Installé en Guadeloupe.
C'est ça.
Et en 2016, tu m'invitais à y participer en tant qu'artiste visuel. J'ai pu y présenter une première expo de portraits d'artistes d'ici.
C'est vrai.
Là-bas, fait que ça a créé des beaux clins d'œil et surtout une belle collaboration internationale.
Oui.
Je t'avais vu au Québec avant. Ça veut dire que peut-être que l'idée de venir ici, en fait, je te pose la question, d'où t'es venue l'envie de venir t'installer ici?
Depuis 5 ans avant mon installation, je développais déjà des projets en fait de partenariat justement entre la Guadeloupe et le Québec. Et donc je venais un peu tous les 6 mois quasiment, hein, je pense ici, avec des groupes de professionnels, des groupes de jeunes et tout. Et au fil de mes venues, je développais aussi des rencontres avec des personnes, dont toi justement. Et de plus en plus, j'avais cette envie de me confronter en fait à l'ailleurs et d'amener ma perspective dans cet ailleurs et de permettre, c'est pour ça que je dis que j'ai pas quitté la Guadeloupe, et de permettre en fait à tous ces projets que j'essayais déjà de développer chez moi, bah, de leur donner un nouveau rayonnement. Et je trouvais que quand je suis arrivée à Montréal, et plus je côtoyais Montréal et les personnes qui vivaient ici, plus je trouvais que certaines réalités étaient hyper similaires. Et cette insularité, ce fait aussi d'être des francophones dans un bassin pas mal anglophone. Et il y avait quelque chose, en fait, des réalités similaires et qui nous rapprochaient. Puis Montréal, c'était ce côté, comme tu dis, aussi international pour des artistes aussi de chez nous. Donc, c'était me permettre à mes projets d'aller plus loin. Mais je sais même pas comment s'est développée l'envie de me dire, bah tiens, je pose mes valises. Je crois que j'en avais juste besoin. J'avais besoin de cette fraîcheur. Tu sais. Parce qu'en plus, je suis arrivée vraiment en hiver.
Ah, donc, mais justement, j'allais te demander...
Je suis pas arrivée en été.
Quel a été ton premier contact?
Mais vraiment, la première fois où je suis venue au Canada, c'était au Québec, en 2011, si je ne me trompe pas, en février.
Waouh!
Donc, ouais.
Ça ne se choisit pas, ça.
Ça, ouais. Mais en fait, puis tu sais, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais pourquoi? Il fait chaud chez nous. Mais je pense que c'est au-delà des températures. Et puis, en fait, c'est les gens qui me permettaient de me sentir dans cette espèce de cocon et donc de chaleur, tu sais. Moi, je sais pas, j'ai adoré ça. Puis en plus, ouais, comme j'ai grandi en Guadeloupe pas mal, quoi. Je suis née en France, j'ai grandi en Guadeloupe. C'est bon, l'hiver, moi, j'étais pas confrontée à ça. Donc, c'est ça l'exotisme.
C'est vrai, hein? Finalement, c'est la différence.
Fait que venir en exploration, venir parce qu'on a des projets et venir s'installer, je pense que c'est des dynamiques complètement différentes.
Totalement.
J'aimerais savoir, après cette pause musicale, c'est quoi la dichotomie que tu as ressentie entre les attentes versus là où les réalités. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez Nouveau Départ, une série de conversations autour de l'expérience d'immigration. Mon nom est Kétie Antoine et j'ai devant moi Amélie Tintin, mon amie Amel, qui vient de Guadeloupe. Amel, quelle est la différence entre les attentes avant de t'installer ici versus les réalités?
C'est super complexe. Je vais essayer de vraiment bien... synthétiser ma pensée, mais ma réflexion est super profonde dessus, parce que malgré le fait que je n'avais pas l'impression de quitter quoi que ce soit, j'ai quand même quitté quelque chose. J'ai quitté une vie entière, en fait. J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon village, comme on dit, c'est Et quand je dis ça, c'est pas parce qu'on a des villages, hein. Mais c'est parce qu'en fait,
en ressources humaines,
voilà, l'écosystème. C'est ça. C'est ce que je veux dire parce que j'ai quand même des enfants et j'ai 3 enfants. J'ai choisi de partir au moment où ma plus grande fille partait faire ses études en France. Puis j'étais aussi assez super fière en fait de sa façon de réussir à gérer tout ça. Et puis j'avais envie de me donner ce coup de pouce à moi aussi, c'est cette espèce d'élan. Puis je suis partie avec mon plus jeune fils, qui à l'époque avait 8 ans, si je ne me trompe pas, et qui lui aussi, en fait, finalement, ressentait ça comme quelque chose de cool, de fun et tout, à l'époque et tout. Et j'ai laissé ma fille du milieu, qui, elle, était quand même en train de finir, finalement, ses études en Guadeloupe. Et je n'avais pas envie de couper son parcours. Il lui restait, quoi, 2 ans à peine à tenir. Et je me suis dit, c'est simple, elle reste avec ma mère et tout ça. Puis les choses n'ont pas été aussi simples, en fait. Les choses n'ont pas été aussi simples parce que je pensais aussi que je comprenais un peu la dynamique de Montréal. Je fréquentais ici depuis quand même au moins 5 ans. J'avais des personnes, j'étais déjà confrontée à des réalités. J'entendais, je comprenais un peu la réalité sociale. Puis en fait, pas du tout. Vivre un pays de façon sporadique, vraiment, y venir une semaine, 2 semaines, 1 mois, c'est pas le vivre au quotidien. Et je pense quand même aussi que j'étais dans cette espèce de réflexion, tu sais, hyper idylliste, c'est-à-dire ici c'est cool, ici c'est on a accepté, la vie est simple, c'est l'Amérique du Nord mais en français, c'est comme c'est l'Eldorado,
presque la terre promise,
tout ce que tu veux, quoi. Oui. Et en fait, ça a été brutal dès le début. Ça a été brutal dès le début parce que ça a été brutal déjà avec le système scolaire, je te dirais, pour mon fils. Je ne m'attendais pas, en fait, à vivre autant d'expériences de racisme.
Sérieux.
Pour lui.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est des petites choses aussi toutes bêtes que, je veux dire, oui, on est francophones tous, mais on n'expérimente pas la langue de la même façon et on ne l'exprime pas, on n'exprime pas les choses de la même façon. Tu sais, donc le contexte interculturel, je ne l'avais pas non plus pris en compte. Et aujourd'hui, si je dois donner un conseil à une famille ou à quelqu'un qui vient notamment avec des enfants, c'est de se préparer dans cette interculturalité, de comprendre ce concept d'interculturalité, de comprendre notre culture d'origine, notre façon donc de parler, de la vivre, notre façon de se réfléchir en tant qu'humain, qui est une perspective et la façon dont ici on vit cette francophonie, on vit en fait la langue, la culture et les choses, qui est une autre perspective. C'est pas juste des confrontations. Tu sais, c'est par exemple que mon fils ne comprenne pas comment on lui explique un exercice. La façon de proposer l'exercice, la façon de l'amener, de l'expliquer, c'était 2 choses totalement différentes. Donc il y a dû y avoir, et ça paraît super bête, mais oui, non, mais c'est pareil. Et en fait, pas du tout. On a des façons en France d'accompagner les élèves qui est beaucoup à revoir sur plein de points. Mais ici aussi, en fait, il y a d'autres façons d'accompagner les élèves qui étaient vraiment une confrontation, en fait. Et donc, finalement, j'ai dû accompagner des enseignants à comprendre que mon fils comprend sans comprendre.
Mmh.
Ce n'est pas qu'il n'entend pas les mots et qu'il ne parle pas français. Oui, il le parle. Mais la façon d'expliquer les exercices ne sont pas les mêmes. L'attente, au final, n'est pas la même. Et j'ai dû, par exemple, des fois leur montrer comment un exercice de mathématiques était présenté chez nous. et demandé, qu'est-ce qui était demandé au final, et comment ici il le présentait. Juste un problème, tu sais. Et c'est là où certains comprenaient que, ah ok, tu vois.
C'est vraiment okay, intéressant ce que tu nous partages là.
Et ça a son importance vraiment dans... Parce que mon fils aurait pu se trouver vraiment en échec à un moment. Même le français, je veux dire la matière en français, ce ne sont pas les mêmes façons en fait de les appréhender. Et aussi mon fils a pu paraître insultant aussi à des moments. Parce qu'on a aussi des choses que l'on pratique chez nous à Sport National, parce que je suis française.
Ah oui, c'est quoi ? L'ironie. Donner son opinion.
Donner son opinion, mais aussi le faire de façon ironique. Si, cette espèce d'ironie, cette espèce de façon de parler que l'on a en tant que français, on dit quelque chose, mais... Tu sais, de faire une blague, mais avec beaucoup d'ironie ou des choses comme ça.
Oui, en québécois, on appelle ça baveux. Oui,
mais en fait, qui en fait, au fil du temps, est insultant aussi.
Oui.
Et qui, moi, plus j'ai commencé à vérifier, pas vérifier, mais voir les choses, j'ai vu que c'était en fait hyper passif-agressif, tu vois.
Mais c'est vraiment intéressant ce que tu nommes comme réalité, tu le vis. Moi, je suis une enfant qui est arrivée ici à l'âge de 2 ans, d'Haïti, avec des parents fin vingtaine, début trentaine, qui eux aussi se sont confrontés dans les années 80 à une dichotomie dans la façon de communiquer.
Ouais.
Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu as dit, que tu as eu à accompagner les enseignants de ton fils, finalement, pour les aider à décoder, pour qu'ils comprennent mieux ton fils, pour qu'en fait, que tout le monde puisse vivre un quotidien plus harmonieux, les enseignants puissent continuer à enseigner, ton fils continuer à apprendre.
Ouais.
Est-ce qu'à travers toute cette démarche-là, tu as pu trouver des outils, des appuis? Est-ce que quand même dans l'écosystème, tu as été accompagné, toi, en tant que parent, issu de l'immigration, je mets ça entre guillemets, ici, parce que là, j'entends que tu as accompagné tout le monde.
Oui. Ouais. Mais Non, j'ai pas trouvé d'accompagnement.
Non.
Et en fait, c'est là aussi où il y a une façon de vivre la ville. Mais tu sais, ça a créé plein de bouleversements, hein, même professionnels pour moi, parce que finalement, j'ai fini par apprendre aussi le langage interculturel, c'est apprendre à parler sur la diversité, l'inclusion et les choses comme ça. Donc, ça m'a ouvert aussi des perspectives à moi. Mais en fait, la ville se vit d'une façon où l'immigration ressemble à quelque chose et ressemble à des territoires. Et elle aussi, dans la ville, elle se pense à des endroits et pas à d'autres. Et ce que je veux dire par là, c'est que même si tout le monde est un peu partout, on voit beaucoup les immigrants se mettre dans des quartiers où on a une idée que les immigrants se mettent dans des quartiers tels Montréal-Nord, c'est Côte-des-Neiges, ils sont vers Rosemont, peut-être vers Montréal-Est, tu vois.
Oui.
Ce qui fait que ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de programmes, en fait, oui, d'accompagnement pour des familles immigrantes dans ces quartiers-là. Moi, j'habite le plateau. C'est pas pour... Tu sais, il y a, oui, il y en a.
Mais là, l'expérience d'immigration, elle se veut aussi un peu plus provinciale. On entend hein, dans les programmes qu'il y a beaucoup de programmes d'accueil pour attirer plus de diversité dans les régions, aussi sur la rive sud, sur la rive nord.
Oui.
Montréal a été ton choix.
Oui.
Pourquoi ça a été ton choix et est-ce que tu penses que tu vas rester à Montréal?
Ben, ça a été mon choix parce que, justement, je voulais ne pas trop perturber mon fils, en fait. Et il connaissait déjà Montréal. Et puis, on avait déjà des amis ici, tu vois, qui avaient des enfants et des choses comme ça. Mais c'est plein de bouleversements. C'était plein de choses. Je veux dire, chez nous, les enfants sont dehors tout le temps, jouent ensemble toute la journée. Puis là, mon fils a été confronté de finalement être enfermé dans une maison tout le temps, en fait. Puis de connaître personne dehors. Puis qu'il y a plus de méfiance aussi.
Et aussi, vous êtes arrivé en 2017.
Oui.
Dans votre histoire d'intégration, il y a eu la pandémie qui
est venue
en 2019.
Ah ouais, c'était...
Bouleversé un petit peu là, tout ce qui se passait en termes d'intégration et de construction d'une nouvelle identité.
Ouais.
Comment on arrive à justement à se construire une nouvelle identité quand on vient d'arriver? En fait, vous venez d'arriver, ça fait pas si longtemps.
Ouais.
Vous êtes encore dans la construction de cette identité québécoise. Comment, c'est quoi tes outils? Comment tu y arrives pour toi et ta famille?
Ben, en fait, mon identité a été déjà faite. Donc, comment j'y arrive? C'est que j'ai fait le... Comment dire? J'accepte qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon identité que je redéfinis. C'est comment j'intègre cette identité dans cette vie que je fais ici. Je la reconstruis pas et je la construis pas. Elle est déjà construite. Et elle est pas mal. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans tout ce parcours, au début, j'ai fait l'erreur de me fondre.
Explique-moi.
J'ai fait l'erreur de me faire petite, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas vouloir gêner, de vouloir prouver que je suis une bonne immigrante.
Que t'es une bonne immigrante.
Je suis une bonne immigrante, tu sais. Mais en fait, je me suis guérie de ça. Et aujourd'hui, en fait, je suis une humaine. Donc, je suis faite d'une histoire qui a des fêlures. Je suis faite de valeurs culturelles qui me viennent de d'où je viens, beaucoup. J'apprends à naviguer. Je navigue entre les êtres humains. Mais je ne me redéfinirai pas pour les autres. Parce que c'est vraiment pas mal ce que je suis. Comme... Non, mais en plus, ce que je veux dire, c'est que...
Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un peu un oignon? C'est une couche de plus qui se rajoute
oui.
dans ce noyau que
oui.
tu es.
Oui, et puis...
Que tu refuses de changer.
En fait, c'est ça. C'est que je refuse de m'adapter à devenir ce que l'on attend de moi. Je suis. J'existe comme je suis. Et je suis faite d'une histoire qui continue de s'écrire. J'ai pas fini d'écrire mon histoire, donc j'ai pas fini d'évoluer en tant qu'humain, mais je refuse en fait de me taire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de moi, je le savais déjà, mais j'ai vraiment vu que l'expérience d'immigration m'avait fait essayer de me faire petite. Et en fait, au moment où j'ai... Et c'est vraiment pendant la COVID, ça n'a pas été simple, notamment, on le sait, avec tous les mouvements sociaux, toutes les réalités que ça fait émerger. On prend beaucoup, pour exemple, en fait, George Floyd, mais ici, au Canada, au Québec, il y a eu des choses aussi qui se sont faites. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des choses qui se sont dites par les gouvernements. Tu vois, notamment sur la place de l'immigration, et pas juste de l'immigration, mais de certaines immigrations. Donc, il y a eu des choses qui ont impacté nos vies et qui ont impacté aussi notre vision de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on apporte au Québec? Est-ce qu'il veut de nous, en fait? Aujourd'hui, est-ce que je suis de trop? Est-ce que j'ai envie de me battre, en fait, contre un endroit pour qui j'avais envie de planter, j'avais envie de construire, mais qui pense que ma présence détruit. Et oui, l'identité québécoise. Et moi, je crois en l'histoire québécoise, je crois en l'identité québécoise. Mais je suis venue amener qui je suis, pas me fondre dans une nouvelle identité.
Est-ce que tu as envie de te promener au Québec ou tu penses rester à Montréal?
Je ne pense pas rester à Montréal de plus en plus. Et pas forcément envie non plus de me promener au Québec.
Fait que rester un peu en périphérie, mais peut-être explorer d'autres municipalités.
Ou provinces.
Oh, provinces! Amel, j'ai pris cette tradition de demander un texte inspirant à chacun de mes invités pour voir de quelle façon l'art, la culture peut aussi non seulement vous inspirer, mais nous inspirer, comment elle vous donne de la force et aussi nous donner de la force à travers justement cet échange. Et tu as choisi un magnifique texte de Maya Angelou que je vais me faire un plaisir de lire si tu me permets.
Oh oui!
Still I rise. J'ai trouvé la traduction en français, pourtant je m'élève. Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, je m'élève pourtant. Mon insolence vous met-elle en colère? Pourquoi vous drapiez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole pompant dans ma salle à manger, comme de simples lunes et de simples soleils avec la certitude des marées, comme de simples espoirs jaillissants, je m'élève pourtant. Voulez-vous me voir brisée, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes pleurs émouvants? Est-ce mon dédain qui vous blesse? Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon portage? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine. Mais comme l'air, je m'élève pourtant. Ma sensualité vous met-elle en colère? Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la pointure de mes cuisses, à la jointure de mes cuisses, hors de mes cabanes honteuses de l'histoire? Je m'élève, surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir, bondissant et large, jaillissant et gonflant, je tiens dans la marée, en laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur, et je m'élève vers une aube merveilleusement claire, je m'élève. En portant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève, je m'élève, je m'élève. Vous écoutez Nouveau Départ, un podcast où on a des conversations autour de l'expérience d'immigration. Et j'ai une magnifique conversation avec, je peux le dire, mon amie Amel. Amélie Tintin. Amel, qu'est-ce que tu fais comme travail?
C'est la question la plus difficile. parce que je fais ce que je veux. Mais comme il faut un titre, actuellement, je suis consultante en développement stratégique. J'accompagne aussi les entreprises, les organisations dans une démarche, en fait, EDI, dans une démarche aussi d'interculturalité. Je donne des formations aussi en interculturel, en équité, diversité, inclusion. Et puis c'est déjà pas mal.
Oui, c'est très pas mal. Je vois que ta profession, c'est vraiment approfondie, spécialisée. Tu es vraiment une stratège dans tout ce que tu viens de mentionner. Comment tu es arrivée à développer ce bagage? Est-ce que tu es venue avec cette profession en 2017 ou tu es venue avec un bagage qui t'a permis d'arriver jusqu'à ce que tu viens nous présenter?
Ben, en fait, je suis venue avec une partie de ce bagage, mais il y a des choses que j'ai beaucoup appris aussi après, notamment vraiment de me spécialiser vraiment dans l'interculturalité et dans l'équité, diversité et inclusion. C'est-à-dire que moi, mon bagage universitaire, scolaire, c'était la gestion de projet, le marketing, la gestion de structure et tout. Mais j'ai approfondi, en fait, beaucoup mes connaissances, notamment parce que j'aime pas dire n'importe quoi. Il y a des choses qui commençaient déjà à se former en moi, notamment lorsque mon fils était confronté à des choses et j'avais envie de les approfondir, ce que j'étais en train de dire, de trouver les mots justes et de vérifier aussi ce que j'étais en train de dire et comment je pouvais permettre d'accompagner des personnes. Et en fait, c'est là où je me suis formée à l'Université de Laval, notamment en EDI. Je me suis formée dans la relation interculturelle et les choses comme ça. Et puis, justement, la Covid a fait que, avec, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, les mouvements sociaux, les choses comme ça, beaucoup de choses ont émergé et certaines structures ont vraiment commencé à prendre la décision de créer des postes, notamment en EDI. Puis c'est ce qui a fait que ben, de nouvelles perspectives professionnelles sont ouvertes pour moi. J'étais très impliquée dans les ICC, dans les industries culturelles et créatives. Mais en rajoutant ce bagage justement de l'EDI, de l'interculturel et des choses comme ça, ça a permis à ce que je puisse prendre des postes en responsable de projet EDI, et puis en développement justement, planification stratégique en EDI aussi, et de travailler vraiment à des postes hyper intéressants dans des structures vraiment fortes, de Radio-Canada à la QPM. J'ai vraiment navigué vraiment dans des environnements vraiment incroyables, puis participer à des comités, à des tables rondes, à des Téléfilm Canada, le Fonds des médias, qui commençait réellement à se poser des questions. Et en fait, ma perspective d'immigrante était nécessaire, en fait. Parce que, oui, j'aurais pu apprendre beaucoup de choses, et j'en ai appris. Mais c'est mon savoir expérientiel qui a été le plus important, en fait, dans ma redéfinition. Et c'est là où je dis que j'ai fini vraiment à m'accepter, à accepter mon histoire et faire corps avec elle, faire corps avec aussi les imperfections de cette histoire, faire corps aussi avec ce que j'ai pu vivre, ce que mon fils a pu vivre, et me servir aussi de cette histoire-là pour essayer de créer quelque chose de nouveau à chaque fois. Et c'est là où j'ai pu m'investir dans beaucoup de comités, dans les comités de parents de la CSDM, dans des choses, en fait, pour pouvoir apporter des perspectives et me servir de cette histoire et pas m'en détacher, en fait. Pas me fondre.
Exactement. C'est ce que j'entends, c'est que, en fait, ton histoire, tes choix deviennent tes forces aujourd'hui.
Oui.
Et c'est ce que moi, je voyais, même enfant, voir mes parents se démener pour faire en sorte qu'on ait un quotidien normal, que eux soient aussi épanouis dans leur propre vie, parce mm-hmm. qu'un parent comme toi qui vient ici, oui, tu as la responsabilité de faire en sorte que ton enfant s'intègre bien, mais toi aussi, tu dois être épanoui oui. dans ce que tu as à contribuer dans ton écosystème. Puis ce que j'entends, c'est vraiment quand tu as compris qu'il fallait sortir du paradigme d'être un bon immigrant, puis c'est un petit peu le discours ambiant qui muselle un peu les gens qui viennent d'ailleurs oui. Moi, je pense que c'est une conversation qui devrait encourager à prendre sa place.
Mais moi, j'entends, en fait, en tout cas, que c'est pas si simple. Mm-hmm. Parce que je dirais aussi que j'ai une immigration facile. Moi, je viens de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est la France. Mon passeport, c'est la France. Ça veut dire que c'est quand même simplifié pas mal. Même si la Guadeloupe reste un département, c'est une ancienne colonie, il y a une histoire très très forte, je reste française. La façon dont les choses s'ouvrent pour moi, ce n'est pas la même pour d'autres personnes qui viennent d'autres réalités, d'autres histoires. Et ça, je le respecte. Ce qui fait que même si j'ai essayé de ne pas développer non plus le syndrome de la superwoman et du sauveur, parce que je ne suis... Non. J'ai quand même compris que j'avais une chance et que cette chance me permettait d'ouvrir la voie. À la différence de parents qui ressentent à ne pas avoir le choix de se faire petit.
Je t'entends.
Et je crois que c'est un privilège. Alors ce privilège de maîtriser la langue de Molière, ce privilège de maîtriser les enjeux historiques, culturels, sociaux, ce privilège du pays d'origine, je m'en sers comme un privilège aussi pour ouvrir ma voie. Ça veut dire que lorsque quelque chose me gêne, lorsque quelque chose n'est pas bon, je le dis, parce que j'ai rien à perdre.
Et comment ça se passe pour ton garçon?
Ça n'a pas été simple. Puis là encore, si je devais donner un conseil à des parents, parce que même si je viens...
Il est arrivé ici à quel âge?
À 8 ans, mm-hmm. 8 ans, si je ne me trompe pas, je fais les calculs. J'ai arrêté de faire les calculs. ça pouvait paraître simple, mais pour lui aussi, ça a été difficile. Et notamment quand je t'explique que j'ai dû apprendre à expliquer que on s'exprime pareil, mais pas pareil. Au final, même pour lui, ça a été très difficile parce que quand je te dis qu'il y a ce côté aussi un peu passif-agressif dans nos éducations caribéennes aussi, pas mal, et autres, ça a été un enjeu pour lui finalement de savoir dire les choses, de savoir rester lui, dire les choses. Il a eu beaucoup de questionnements en fait envers lui-même. Ça a été pas mal difficile. À un moment, donc c'était un accompagnement aussi que de lui faire comprendre que c'est une construction maintenant qu'il a à faire. Lui, pour moi, lui par exemple, quand on parlait de construction identitaire, c'est pour lui que je pense qu'il y en a une. Aujourd'hui, mon fils, il va sur ses 16 ans, mon fils est un Montréalais.
Hey, du coup, ça fait déjà 8 ans que t'es là, Amel.
Peut-être sinon il avait 9 ans. Ouais, il avait 9 ans.
C'est ça, en fait.
Ouais, il avait 9 ans.
Tu vois, je calcule mal. Le temps passe vite.
Mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps.
Mais
je crois que
on est
dans les 7
là,
ans
quand même,
là. Ouais.
Ok.
Parenthèse.
Voilà. et en fait, c'est ça. C'est pour lui où mon fils est un Montréalais. Et je dis ça dans toute sa splendeur.
Et
s'il
écoute, il est magnifique, ton fils.
Yes.
Yes.
mais c'est surtout que, tu sais, moi, j'ai dû me confronter en fait aussi à ça. Me confronter à ce que mon fils est en train de construire une identité que je ne maîtrise pas. Puis ça a créé quand même des tensions au début. Construire une histoire qui n'est pas la mienne.
Oui, parce que là, lui, il devient un adulte dans un territoire Mais toi, tu étais adulte dans un autre territoire.
En fait, j'étais adolescente dans un autre territoire.
Ben oui.
Mes repères culturels ne sont pas du tout les mêmes que les siens. La musique qu'il écoute n'est pas du tout celle que j'écoute. Au-delà des divergences des fois culturelles.
Il s'exprime même plus de la même façon.
Non, mon fils est un Montréalais.
Ah oui, on sait ce que ça veut dire.
Comme, vraiment. Et puis mais c'est beau, mais en même temps, ça, moi, à un moment, ça m'a vraiment fait quelque chose et je me suis dit, attends là, on va retourner en Guadeloupe parce que ça va pas. Mais quand je dis, et tu sais, c'est vraiment, en plus, c'était drôle parce que...
Mais tu dis ça à la blague, mais ça allait pas, qu'est-ce qui va pas là?
mais chez nous, on parle créole. Puis mon fils avait les codes du créole haïtien. Plus que du créole guadeloupéen. Puis c'est pas... Non, mais c'est cool. Mais tu peux comprendre quand même que lorsque t'as... tu sais, t'as ton toit là et tu veux qu'il prenne en fait dans sa source et qu'il se dise mais non,
mais
on
oui,
a quelque chose.
Qu'il saisisse les subtilités là.
Tu sais.
Oui.
Et... Mais c'était drôle parce que même dans sa façon de s'exprimer, tu sais, cette espèce de façon de parler qu'ils ont à la Montréalaise, qui est un mélange de tout un tas de cultures. Puis récemment encore, il vient me voir, il me fait « j'apprends à parler espagnol ». Et je fais « espagnol » ou « espagnol » parce que c'est qui t'apprend à parler espagnol? Il me dit « mais c'est mon copain, il est mexicain, il m'apprend à parler espagnol ». Je fais « ok, et par quoi il a commencé ?» À comment draguer, à comment bien parler aux filles et tout ça. Je dis, c'est important, mais comme, tu sais, mais c'est des petites choses comme ça où une fois il était arrivé en avec des mots philippins, tu vois.
Oui.
Mais c'est hyper drôle, mais j'ai dû me fondre aussi dedans.
Ouais, aussi. Non, c'est comme mon fils est moitié congolais, moitié haïtien, 100% montréalais, et il rentre à la maison, voilà maman, tu l'as dead.
Ah ouais, le voilà là.
Voilà.
Wesh.
Maman, tu l'as dead.
Est-ce que c'est ta moon? C'est des trucs comme ça, et là je fais, mais ok. Et tu sais, mais c'est beau, en vrai, c'est super beau.
Vraiment,
et puis moi
ouais.
J'adore ça, en fait. Mais je voulais y rajouter notre petite touche à nous, tu sais. mais je me suis libérée aussi de tout ça. Et puis il y a des réalités quand même, des enjeux sociaux ici, dont on a rendu aussi pas mal les immigrants responsables et qui empêchent en fait de créer un climat social serein parce que en fait on n'est pas en train de vivre les uns les autres ensemble. On est en train de créer des espèces de clivages, des espèces de problématiques, de ramener des problématiques dans les mains de certaines personnes, alors que cette société, on l'a bâtie ensemble.
À la fin de la journée, c'est exactement ça.
On l'a bâtie ensemble et en fait, le mieux est qu'on se comprenne les uns les autres pour pouvoir créer un climat serein pour nous tous, tu vois. Puis je te dirais que c'est ça, en fait, ce qui des fois va me pousser dans mes retranchements, c'est encore cet apprentissage que je dois faire sur de comprendre, en fait, tout ce climat, d'où il vient, qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui s'est créé.
Mm-hmm. Et toi, tu es aussi un esprit très analytique comme personne,
oh ouais,
de
énorme.
Base.
Ouais.
Tu aimes comprendre.
J'aime comprendre. J'aime comprendre parce que les choses ne viennent pas comme par magie.
T'es comme une artiste scientifique.
Ah, mais totalement. Même peut-être plus scientifique artiste que... Moi, je suis hyper mathématique. Mais j'aime comprendre, en fait. J'aime lire, je lis énormément. J'aime comprendre l'histoire. J'aime savoir d'où partent les choses. Qu'est-ce qui... Tu sais, et c'est ça aussi qui me permet de voir que les choses... C'est pas de la magie, en fait. On pourrait prévenir des choses. On ne le fait pas parce qu'on s'en dédouane, mais aujourd'hui, on doit pouvoir créer ce Québec ensemble.
Ah oui.
Parce qu'on veut tous... Il n'y a personne qui veut voir effacer le Québec.
Plus on se comprend, plus on se rassemble, plus on se ressemble.
Mais aussi, on a fait le choix de venir y vivre parce qu'on voulait participer à sa construction, mais pas parce qu'on voulait lui retirer son essence, tu vois. Et moi, ça me plaît, en fait, d'avoir des expressions aussi québécoises dans mon langage.
C'est quoi ta expression préférée?
Tabarnak. Bip. Eh bien, tu vois, eh ben, voilà, ça aussi, c'est très drôle. Tu vois ce bip que tu fais?
Oui.
Ça ne fait pas écho. Jusqu'à maintenant, ça ne fait pas écho en moi. Moi, je ne suis pas en train de dire quelque chose de mal en disant ça.
Non, mais c'est même culturel, le bip. C'est... Mais ça suit toujours.
Mais c'est parce sac. Que... mais tu sais, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas née, moi, avec
ouais.
ça,
le bagage tu vois, de l'explication tu vois, qui vient derrière.
Ce qui fait que moi, quand je le dis, c'est juste fun.
C'est juste un mot.
C'est juste un mot, mais ça ne fait pas écho, tu vois. Et d'autres feront écho. Mais
t'inquiète, ça fait de moins en moins écho.
Mais c'est des... Mais j'ai des façons de dire les choses aujourd'hui. Moi, quand je rentre en Guadeloupe ou que je parle avec ma famille, elles me disent tout de suite « Ah ouais, oulala, ah ouais !» Et elles me font « Ah ouais !» Ah ouais, là, tu sais, mais tu dis « Non, toi, t'es toujours la Guadeloupéenne, tu vois. » Et en fait, pas du tout. J'ai un débit qui devient de plus en plus québécois. J'ai une façon de vivre la langue qui est de plus en plus québécoise. Et puis moi, ça, j'adore ça. Et d'ailleurs, au final, je commence à même faire exprès, mais j'adore ça, c'est... Oula. Mais j'adore ça et j'aime cette québécoise aussi que je deviens.
Tantôt, tu as dit, ah, peut-être qu'il faudrait retourner, peut-être à la blague ou pas. Quand tu parlais justement de l'intégration, la nouvelle identité de ton fils.
Oui.
Moi, tout de suite, ça a fait un peu écho à une expérience personnelle. Parce que oui, je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans, mais je ne suis pas arrivée ici avec mes parents. Ils sont vraiment arrivés avant, un peu comme tu as fait. Et puis après, on fait venir la famille. Et par contre... La dichotomie entre les attentes et la réalité, elle a été énorme pour mon père. Mon père a très mal vécu son expérience d'immigration ici au Québec. Ça le changeait. Et quand j'ai eu 12 ans, ils ont décidé, mes parents, que mon père retournait.
Ouais.
Parce qu'il était vraiment en train de mettre sa santé mentale à l'épreuve. Ça a déchiré ma famille, ce retour. Est-ce que toi, je ne te pose pas la question dans le sens que tu vis quelque chose qui ressemble à ça, mais juste le fait que tu aies mentionné Nolan... ah, mon Dieu, excuse-moi, j'ai mentionné le nom de ton fils, je ne voulais pas, mais salutations. si ça ne se passe pas comme il faut, on retourne, genre pour aller s'assurer que cette identité du pays, de la Guadeloupe, elle ne s'évapore pas. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu disais ça?
Oui. Ouais, c'était vraiment ça, parce que je suis très, très proche de ma culture, que ce soit dans la musique, dans la façon de la vivre, dans les saveurs, tu sais, culinaires, moi, je suis très, très proche de l'histoire de chez moi. Et puis ça m'a été transmis par mes parents. Ce qui est drôle, c'est que quand on est rentré quand même plusieurs fois, mais notamment l'année dernière, on est rentré dans la période de son anniversaire, donc pendant le carnaval.
Mm-hmm.
Puis, moi, je peux dire que ça a créé un choc pour mon fils. Ça, il avait oublié. Il avait vraiment oublié. Il revoyait les choses.
Parce qu'il était parti à l'âge de 8 ans.
Il réapprenait. Mais moi, j'avais pas fait ce chemin-là.
Mm.
Parce que pour moi, il était grand, là. Et il savait, en fait. Puis en fait, non. Il s'est construit ici. Et quand il est rentré, vraiment l'année dernière, Parce que justement, la Covid avait fait qu'on ne pouvait plus y retourner à un moment, il y avait moins d'avions, et puis ça devenait difficile, et puis après, réalité oblige, voilà quoi. Et donc, ça faisait au moins 2 ans qu'on n'était pas revenu. Et en fait, 2 ans, ça paraît peu, mais c'est beaucoup pour un enfant. C'est de passer de 10 ans à 12, 13,
Ben oui, c'est une vie.
c'est en fait, c'est autre chose. T'sais. Et en fait, quand il est rentré, ça lui a fait un choc. Et lui, il a ressenti le besoin d'y retourner beaucoup plus souvent. Et quasiment à dire qu'il voulait y retourner. Pour lui, il veut retourner y vivre.
Ça se vit comment, ça?
Ben, ça... J'avoue que ça m'a fait un truc. Je me suis dit, mais je fais tout ça pour toi. Pourquoi tu veux retourner là-bas? Mais c'est surtout que je voulais pas non plus qu'il ait à l'effet inverse, qu'il prenne le retour chez lui comme un vacancier. Parce qu'en fait, il avait vécu son île sur une courte durée. Et c'est là où moi, j'ai essayé de lui dire. Oui, c'est ta culture d'origine, c'est ton chez-toi. Sauf qu'en fait, tu n'es plus juste ton chez-toi. Ça veut dire que vivre ton chez-toi, aller à la plage, vivre le carnaval, vivre les choses de façon détachée et les vivre au quotidien, ce sont deux perspectives différentes. Ça veut dire que je ne t'empêcherai pas d'y retourner. Par contre, retourne-y conscient. Pas avec une vision de la vie simple.
C'est très intéressant parce que je ne crois pas que tu avais pu envisager cette dynamique.
Non, pas du tout. Je ne l'avais pas du tout envisagé. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que en fait, tous mes enfants veulent y retourner. Ma plus grande fille y est retournée, ne veut pas venir vivre ici. Elle veut rester en Guadeloupe. Mon fils veut y retourner, il veut construire des choses là-bas. Et ma seconde fille est en questionnement, mais elle aussi, elle y retourne en vrai. Et c'est là où c'est drôle parce que, en fait, ça me prouve aussi que finalement, j'ai réussi à faire la Guadeloupe continuer à exister en eux.
Oui. Eh bien, tu vois, j'aime bien comment que tu as répondu là, parce que j'allais te demander, est-ce que tu ressens un petit sentiment d'échec parce que tu as ouvert cette aventure de voyage, d'immigration à ta famille, et au final, ben là, en ce moment, ce qui se manifeste, c'est un fort désir de retour de la part de tes trois enfants.
Ah non, c'est pas du tout un échec, au contraire, je me dis que c'est quasiment une réussite parce que eux-mêmes, en fait, quand ils y retournent avec d'autres identités et ils rapportent quelque chose à l'île. Donc, c'est une réussite.
Magnifique. Magnifique. Amélie Tintin, moi je commence toujours, en fait, je termine mes conversations avec la lecture de la biographie. Tu me permets de lire ta bio? Amélie Tintin est consultante et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des entreprises, OBNL et organisations dans leur démarche de communication, de développement stratégique et de transformation. Elle aide ces structures à mettre en place des stratégies favorisant des environnements de travail conscients, équitables et inclusifs. Et elle propose des formations en interculturalité et leadership conscient. Elle est présidente de Makila et de l'OBNL Nouvelle Vague artistique et culturelle, où elle soutient des projets créatifs et inclusifs qui valorisent la diversité culturelle. Avant de s'installer au Canada, Amélie dirigeait Gualabel en Guadeloupe, une structure dédiée à la promotion de la culture urbaine avec des festivals, expositions et ateliers conçus pour soutenir les jeunes issus des quartiers difficiles, souvent en décrochage scolaire et confrontés à des défis personnels. En tant que directrice par intérim de DAM, Diversité artistique Montréal, et membre de l'équipe EDI de Radio-Canada, dirigée par Yolande James, Amélie a renforcé sa mission de diversité et d'inclusion. Elle s'implique activement dans Advance Music Canada pour accroître la visibilité et le soutien de la communauté noire dans l'industrie musicale canadienne. Mère de 3 enfants, Amélie continue à créer des ponts entre le Canada, la Caraïbe et l'Afrique, développant des initiatives comme des camps d'écriture, des résidences de création et des collaborations internationales qui nourrissent la diversité et le développement des talents. Hey, merci beaucoup, Amélie Tintin, amie Amel.
Merci, toi.
Merci
vraiment
pour cette conversation. Merci beaucoup pour ta générosité. Tu continues à être un modèle pour moi, même si ça te gêne des fois. Mais tu es vraiment une belle personne, Amélie, et puis je te souhaite tout le meilleur pour la suite de ton parcours.
Merci.
Ça, c'est ce que moi, je te souhaite. Qu'est-ce que toi, tu désires qu'on te souhaite?
Qu'est-ce que je désire qu'on me souhaite? En fait, d'avoir encore la possibilité d'écrire de nouveaux chapitres.
C'est exactement ce que moi et tous mes auditeurs et tous mes complices de Canal M te souhaitent également, Amélie.
Merci.
Merci. À une prochaine fois.
À très bientôt, j'espère.
Ouais. Alors, vous écoutiez un autre épisode de Nouveau Départ où on a vraiment de conversations lumineuses autour de l'expérience d'immigration, comment ça se vit, comment ça se partage, comment on s'auto-inspire, comment on rend nos déplacements et nos intégrations pertinentes pour nous-mêmes et nos écosystèmes. Nouveau Départ est présenté par Union Urbaine et Canal M. À la mise en onde, Mathieu Tessier. Chef diffusion technique, Jean-Sébastien Laliberté. Trame sonore originale par Na Agnan. À l'animation et à la recherche, moi-même, Kitty Antoine. Et je vous dis à très bientôt.